Cependant, le souverain maître du monde parcourt la vaste enceinte des cieux. Il examine si quelque partie ébranlée par la violence du feu ne menace pas ruine. Quand il les voit solides dans leur stabilité primitive, il contemple la terre et les désastres que les hommes ont soufferts. Mais sa chère Arcadie est le premier objet de ses soins. Il rend un libre cours aux fontaines et aux fleuves qui n'osaient encore couler, revêt la terre de gazon, les arbres de feuillage, et ordonne aux forêts dépouillées de reprendre leur parure. Mais tandis qu'il va et qu'il revient sans cesse, une nymphe de Nonacris a fixé ses regards, et reçu dans son cœur, l'amour le consume de ses feux. Callisto n'occupait ses loisirs ni à filer la laine docile sous ses doigts, ni à varier la forme et les nœuds de sa chevelure. Dès qu'une agrafe avait fixé les plis de sa robe et une bandelette blanche ses cheveux négligemment noués, armée tantôt du javelot, tantôt de l'arc, elle suivait la belliqueuse Diane. Jamais le Ménal ne vit de nymphe plus chère à cette déesse. Mais quelle faveur est durable! Le soleil, sur son char élevé, avait franchi plus de la moitié de sa carrière quand la nymphe entra dans une forêt que les siècles avaient respectée. Elle dépose le carquois suspendu à son épaule, détend son arc flexible et s'étend sur la terre tapissée de verdure. Sa tête languissante repose sur le carquois étincelant. Jupiter la voyant fatiguée, seule et sans garde. « Du moins, dit-il, Junon ignorera ce larcin. Dût-elle le connaître, que m'importe à ce prix ses jalouses fureurs ?» Soudain revêtant les traits et les habits de Diane, « Nymphe, dit-il, l'une de mes compagnes, sur quelle montagne es-tu chassée ?» Callisto se lève et répond. « Je vous salue, déesse, à mes jeux plus puissantes que Jupiter, oui, plus puissantes, je le dirai même en sa présence. » Le dieu sourit en l'écoutant et s'applaudit de se voir préféré à lui-même. Il l'embrasse, et ses baisers trop ardents ne sont pas ceux d'une chaste déesse. Elle allait raconter dans quelle forêt la chasse avait conduit ses pas. De nouveaux baisers arrêtent sa réponse, et le dieu se révèle par un crime. Callisto résiste, autant du moins que le peut une femme. Ô Junon, que ne vis-tu ses efforts, tu serais moins inexorable. Elle résiste, mais quelle vierge, quel homme peut triompher de Jupiter? Après sa victoire, il remonte aux célestes demeures. Callisto déteste la forêt témoin de sa honte. Prompte à s'éloigner, peu s'en faut qu'elle n'oublie et son carquois et ses traits, et l'arc qu'elle avait suspendu. Cependant, escortée du cœur de ses nymphes, Diane paraît sur les hauteurs du Ménal, triomphante des nombreuses victimes immolées sous ses coups. Elle aperçoit la nymphe et l'appelle, et Callisto s'enfuit à sa voix. Elle craint d'abord de trouver encore Jupiter sous les traits de Diane. Mais quand elle voit les nymphes s'avancer à ses côtés, elle ne craint plus de pièges et se mêle à leurs troupes. Hélas! Qu'il est difficile de ne point laisser paraître sur le visage la trace d'une faute. À peine lève-t-elle ses yeux attachés à la terre. Elle n'ose plus, comme autrefois, prendre place à côté de la déesse, ni marcher à la tête du cortège. Elle garde le silence, et la rougeur de son front révèle l'outrage fait à sa pudeur. Si Diane n'eût été vierge, elle aurait pu voir cent témoignages de sa honte. « Ces nymphes les virent, dit-on. La lune renouvelait dans les cieux son neuvième croissant, lorsque la déesse des forêts, épuisée par les feux que lance son frère, entra dans un bois sombre d'où s'échappait un ruisseau coulant avec un doux murmure sur un lit de gravier. Elle admire la beauté de ces lieux. Puis, effleurant de ses pieds la surface des eaux, elle admire aussi leur limpidité. « Puisque nous sommes loin de tout regard profane, dit-elle, dépouillons nos vêtements et plongeons-nous dans l'onde. » Callisto rougit. Déjà tous les voiles sont tombés. Seule, elle diffère encore. Tandis qu'elle hésite, ses compagnes détachent ses vêtements et découvrent son déshonneur en découvrant son sein. Interdite, elle cherche à se faire un voile de ses mains. « Fuis loin d'ici !» s'écrie la déesse. « Crains de profaner ces ondes sacrées !» elle dit, et l'exile de sa cour. Depuis longtemps, l'épouse du puissant maître du tonnerre connaissait cet affront, mais elle avait ajourné sa terrible vengeance à des temps plus favorables. Maintenant, le délai n'est plus permis. Arcas, et c'est ce qui anime le courroux de Junon, a déjà reçu le jour. Vers cet enfant se tournent à la fois ses regards et son âme irritée. Il ne te manquait donc plus que d'être féconde, infâme adultère, s'écrie-t-elle. Il ne te manquait plus que de mettre au monde un fils, gage éclatant de mon injure et du crime de Jupiter qui m'appartient tout entier. Ce ne sera pas impunément. Je te ravirai cette beauté dont tu es éprise et qui allume une flamme odieuse au cœur de mon époux. À ces mots, se plaçant devant elle, Junon la saisit par les cheveux qui couronnent son front, la courbe jusqu'à terre et la renverse. Callisto suppliante lui tendait les bras, et ses bras se couvrent d'un poil noir et hérissé. Ses mains se recourbent, s'arment d'ongles aigus et lui servent de pied. Sa bouche, admirée naguère de Jupiter, s'ouvre large et hideuse. De peur que la prière, aux accents irrésistibles, ne fléchisse son âme, le don de la parole lui est ravi. Une voix pleine de colère, de menaces et de terreur s'échappe en grondant de son gosier. Callisto devient ours, mais sa raison survit à sa métamorphose. De continuels gémissements attestent sa douleur. Sous leur forme nouvelle, ses mains s'élèvent vers les astres qui brillent au ciel, et si sa voix ne peut accuser l'ingratitude de Jupiter, son cœur la sent et l'accuse. Que de fois, hélas, n'osant reposer seule dans la forêt, elle vint errer devant la demeure et dans les champs qui lui appartenaient naguère. Que de fois, poussée par les cris d'une meute à travers les rochers, chasseresse, elle fuit épouvantée à l'aspect des chasseurs. Souvent elle se cache tremblante à la vue des bêtes féroces, oubliant ce qu'elle est elle-même. Ours, elle redoute dans les montagnes la rencontre des ours. Elle a peur des loups, quoique son père se trouve parmi eux.